Bonjour frères et sœurs, les amis. Nous étudions l'évangile de Jean et nous avons vu à la fin du chapitre 1, c'était il y a 2 semaines, comment plusieurs disciples se sont attachés à Jésus. Ils ont été introduits d'abord par Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste, son ministère était d'annoncer la venue de quelqu'un de plus grand que lui. Et il l'a vu venir, puis il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Et il a conduit ses propres disciples même à aller vers Jésus pour voir et constater de leurs propres yeux qui il était. Et plusieurs sont venus par le témoignage de Jean-Baptiste, par le témoignage aussi des nouveaux disciples, qui eux-mêmes en parlaient à d'autres. Et on a vu que c'est le principe que Dieu a établi pour que la foi en Jésus se répande sur la terre. C'est le témoignage de chacun. Le témoignage de vous et moi, qui parlons de Jésus. Et d'autres viennent à le connaître. À partir du chapitre 2, on rentre dans une autre phase où Jésus lui-même va témoigner. Il témoigne de Dieu, de son Père céleste, par différentes manières, mais c'est lui-même qui parle, il rend témoignage à Dieu. C'est le début de son ministère public. Il avait environ 30 ans. Donc, pendant les 30 premières années de sa vie, sa famille a bénéficié de sa présence, sa mère Marie, son père Joseph pendant le temps qu'il était vivant. Mais maintenant, Jésus se tourne vers la population, son ministère public. Mais dans le premier événement qu'on va voir aujourd'hui, on pourrait dire que c'est... Au début, ça commence par un ministère semi-public, parce que Jésus veut rester discret. On va le voir. Donc, lisons ensemble le chapitre 2 de Jean, les versets 1 à 11. L'Évangile de Jean, chapitre 2, au verset 1. Jean 2, 1. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces, ainsi que ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui dit, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Alors sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Il y avait là 6 jarres de pierre, destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces jarres. » Et ils les remplirent jusqu'en haut. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'organisateur du repas. » Et ils lui emportèrent. Et l'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Alors il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana, en Galilée, le commencement des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Un court passage, mais qui est bien connu. Les noces de Cana, ce n'est pas un homme qui s'appelait Cana, c'est le lieu où se sont déroulées les noces. On peut voir le texte comme en 4 parties. D'abord, une mise en place, là, le contexte de l'événement, versets 1 et 2. Ensuite, on voit au verset 3 à 5, avec l'interaction avec Marie, c'est dévoilé un peu qu'est-ce que les gens à l'époque attendaient du Christ. C'était quoi l'attente en général du Christ, du Messie? Ensuite, au verset 6 à 10, on voit l'intervention de Jésus qui est miraculeuse, hein? Un miracle, un signe. Et Jean ici conclut au verset 11 en présentant un sommaire des miracles de Jésus. À quoi il servait? Qu'est-ce que ça a produit? Donc, voyons d'abord dans quel contexte l'événement se passe. C'est un festin de noces, un mariage, un temps de grande réjouissance. Ce n'est pas un temps où on est en deuil, normalement. L'enterrement de vie de garçon a eu lieu. C'est un temps de réjouissance. Et à l'époque, c'était de grandes réjouissances. Ça pouvait durer facilement 1 semaine ou même plus. C'était à l'époux d'organiser tout ça, organiser la réception de tous les invités, et fournir toutes les victuailles et le vin. Donc, c'est un temps de grande réjouissance. Puis, Marie, la mère de Jésus, s'y trouvait là, invitée. Et Cana n'est pas loin, d'ailleurs, de Nazareth. Donc, ils se connaissaient, peut-être des amis de la famille. Marie était là en tant qu'invitée et peut-être qu'elle a aussi aidé à l'organisation. C'est possible. Et Jésus aussi est invité avec ses disciples pour y aller. Donc, il y avait déjà, d'après le chapitre 1, il y avait déjà au moins 5 disciples qui suivaient Jésus. Il y en avait peut-être plus, mais ça se passe tout de suite après. Là. Donc, peut-être 5 disciples, et ils sont invités avec Jésus aussi. Donc, ça fait 6 personnes de plus qui arrivent aux noces. Mais c'est significatif, ça, que Jésus accepte de participer à un festin de noces, un événement où la principale activité, ce n'est pas des rites religieux, c'est de fêter. Un gros party, qu'on dirait en québécois. De fêter, de manger, de boire entre amis, d'être à table, de se réjouir. Et Jésus accepte d'y aller. C'est vraiment caractéristique de son ministère, Jésus. Il est venu pour s'entretenir avec les gens dans leur vie courante. Dans leur tristesse, dans leur malheur, mais aussi dans leur réjouissance. D'être avec eux. Plus tard, les chefs religieux, quand ils vont apprendre les habitudes de Jésus, ils vont le mépriser pour ça, ils vont le juger. Les pharisiens vont le critiquer sévèrement. Parce que ça faisait contraste quand même avec les prophètes, avec Jean-Baptiste qui l'a précédé juste avant. Jean-Baptiste, dans son ministère, il était au désert, vêtu d'une peau de poil de chameau, de chèvre. En tout cas, il mangeait des sauterelles, du miel, il ne buvait pas d'alcool. Il avait une vie comme à part, un peu comme un moine. Mais Jésus, puis il a été critiqué d'ailleurs pour ça, Jésus, lui, était avec le peuple. Il a quand même été critiqué. Dans Matthieu 11, on lit, c'est Jésus qui répond aux critiques, « Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et l'on dit, c'est un homme qui fait bonne chère, un buveur de vin, un ami des péagers, des pécheurs. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. » Quand les gens prenaient la peine d'observer vraiment le comportement de Jésus, ils pouvaient voir qu'il était irréprochable. Il ne devenait pas impur au contact des gens qui fêtaient. Il pouvait même fêter avec eux en restant pur. On peut être sûr que Jésus n'a jamais abusé de la bonne nourriture là, par gourmandise. Il n'a pas péché par gourmandise. On peut être sûr qu'il n'a pas abusé du vin pour s'enivrer et perdre ses facultés ou le contrôle de lui-même. Donc, dans tout cela, il est resté pur. Parfait. Mais c'est une confirmation ici que Jésus n'est pas contre les réjouissances. S'il nous avait vu ce matin taper des mains en chantant, il n'aurait pas été offensé. Au contraire. Jésus approuve les réjouissances et il approuve ici les réjouissances dans le cadre d'un mariage. C'est normal de se réjouir pour un mariage. Et c'est normal aussi que ce soit une célébration publique. Avec des amis, avec des frères, des sœurs, avec la famille. On a vu au chapitre 1 comment Jésus est introduit par l'apôtre Jean qui a écrit le texte, par l'auteur. On voit les qualités de Dieu qu'il est, de Jésus, pardon, mais il est Dieu. Il est la parole de Dieu, la parole créatrice. Il est le créateur, c'est le Seigneur Jésus. Et le mariage, c'est intimement lié avec la création, hein, parce que Dieu a... Tout de suite après avoir créé la terre et mis l'homme et la femme sur la terre, il a institué le mariage. Donc, le mariage est institué de Dieu. Donc, quand on voit le mariage dans la Bible, ça devrait faire référence dans nos esprits à la création, le Créateur. Il a voulu cela. Dans Genèse 2, 24, il est écrit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Donc, partout sur la terre, quand un homme et une femme se marient, deviennent une seule chair et ils s'engagent sincèrement à marcher ensemble pour la vie, ça plaît à Dieu, c'est selon l'ordre de la création. Même si ce n'est pas forcément dans un cadre religieux. C'est sûr que quand on se marie entre chrétiens, normalement, on veut être avec nos frères. Et ça se passe avec l'Église. Jésus est le Créateur, donc il approuve certainement le mariage, mais il est venu aussi pour présenter, introduire la nouvelle création. Il est la parole créatrice qui vient recréer un monde parfait. Donc, c'est en processus, là. Ceux qui appartiennent à cette nouvelle création-là sont liés à Jésus par des liens qui ressemblent aux liens du mariage, où Jésus est l'époux et les croyants qui entrent dans le royaume des cieux, dans cette nouvelle alliance-là, cette nouvelle création, sont en lien avec l'époux comme par des fiançailles. L'Église est la fiancée de Jésus. Et un jour, à la fin des temps, nous serons invités aussi aux noces de l'agneau et on va célébrer le grand mariage, le grand festin. Donc, ce qui nous attend, notre espérance dans les lieux célestes, sur la nouvelle terre qui est en préparation, mais le premier grand événement, là, c'est ça, c'est de fêter, de manger, de boire ensemble, de se réjouir des noces de l'agneau. Ici, il y a un petit détail qui peut sembler insignifiant, c'est que le passage commence en disant « 3 jours après ». Quand on fait le compte à partir du premier jour où Jean-Baptiste a introduit Jésus en disant « Voici l'agneau de Dieu », le lendemain, il a encore dit la même chose. Le lendemain, il y a 2 de ses disciples qui sont partis pour suivre Jésus. Le lendemain, l'un des disciples est allé chercher son frère Pierre. 3 jours après, on se trouve à cet événement-là, ça fait 7 jours. Le chiffre 7 dans la Bible, c'est significatif. Et particulièrement dans l'Évangile de Jean, les détails que Jean donne ont souvent un sens symbolique. Ça s'est passé pour vrai dans cet ordre-là, mais pourquoi Jean nous rapporte ici le nombre de jours exact? Mais le chiffre 7, et particulièrement 7 jours dans l'Ancien Testament, ça fait référence à la semaine. 6 jours de travail où on peine à la sueur de notre front, et le 7e jour qui est le repos, la joie d'être dans la présence de Dieu. Et c'est ce que Jésus amène aussi, en venant inaugurer cette nouvelle création-là, c'est une nouvelle création où on est dans le repos. La malédiction de devoir peiner à la sueur de notre front sera disparue. La malédiction aussi de devoir s'efforcer pour plaire à Dieu par les rites de l'Ancienne Alliance sont enlevés. En Jésus, c'est un repos, et pas seulement pour une journée, c'est un repos qui est continuel. Donc, je pense qu'il y a un symbolisme fort ici, que Jésus participe à un événement de joie le 7e jour, un événement de réjouissance. Et la joie, c'est un des critères de base dans cette nouvelle alliance-là. Ceux qui croient en Jésus et qui sont admis dans son royaume goûtent déjà, même maintenant, pendant la vie, cette joie-là du repos en Jésus. Un repos marqué par la réjouissance. Même la réjouissance, même parfois quand ça va mal, même quand il y a des difficultés, même quand on est dans le deuil. On peut se réjouir quand même d'appartenir à Christ, d'être en paix avec lui, en paix avec Dieu. Et c'est même un commandement, c'est un beau commandement. En Philippiens 4, il nous a dit « Réjouissez-vous, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, « Réjouissez-vous. » Donc, c'est un beau choix de chant ce matin. On s'est réjoui en masse. Mais c'est une qualité du chrétien. Donc, ça, c'est la mise en contexte. Jésus est dans un mariage et il fête avec les convives qui sont là. Et il se passe un événement fâcheux qui va dévoiler un peu l'attente que les gens avaient à propos de Christ. Ils attendaient le Messie qui allait venir, mais ils avaient une certaine compréhension de ce que le Christ était censé faire. Et relisons les versets 3 à 5. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui dit, « Mais femme, qu'il y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Alors sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Le vin vient qu'à manquer. Et dans ces circonstances-là, c'était un problème majeur. C'est comme s'il n'y avait plus de café pour les cours d'école du dimanche. C'est dramatique. Mais à l'époque, dans la culture, c'était une culture où l'honneur était très important, peut-être même exagéré, la notion d'honneur. Donc, quelqu'un qui perdait la face, qui subissait la honte, c'était considéré comme très grave. Mais les autres n'allaient pas manquer aussi de lui rappeler. Donc, peut-être que l'époux, à cause du manque de vin, en plein milieu des festivités des noces, là, il allait devoir subir la honte, la critique pendant longtemps. Peut-être qu'elle allait être appelée, « Ah oui, c'est lui là qui a manqué de vin dans ses noces. » Ça allait peut-être être écrit sur sa tombe même. Donc, c'était grave. Donc, Marie vient exposer le problème à Jésus. Il n'y a plus de vin. Pourquoi elle vient se tourner vers Jésus? On ne sait pas exactement. Puis là, vous avez sûrement déjà étudié le texte ou lu des commentaires. Il y a toutes sortes d'interprétations possibles. On peut déduire certaines choses. Il semble qu'à ce moment-ci, Joseph, le mari de Marie, le père de Jésus, était décédé. parce qu'il n'en est plus question dans l'histoire. Donc Marie, peut-être depuis déjà quelques années, elle avait l'habitude de dépendre de son fils aîné, de Jésus, pour régler les différentes situations, pour être le pourvoyeur de la famille même. Jésus, dans certains cas, est appelé le fils du charpentier, mais parfois il est appelé aussi le charpentier. Il est devenu le pourvoyeur. Donc c'est normal que Marie se tourne vers Jésus. Peux-tu faire quelque chose? Il manque de vin. Certains pensent qu'elle est carrément venue lui demander de faire un miracle. C'est possible, mais ça me semble peu probable, parce qu'au verset 11, Jean dit que c'est là le commencement des miracles de Jésus. Et Jésus n'avait pas l'habitude de faire des miracles avant. Ça ne veut pas dire qu'il n'en a pas fait du tout, mais il n'était pas dans un, avant, il n'était pas dans son ministère où il faisait des miracles jusqu'à ce jour-là. Il y a eu des écrits, des faux écrits qui ont été sur l'enfance de Jésus où il aurait fait des espèces de tours de magie, là. Il a changé des oiseaux de pierre en vrais oiseaux. Mais c'est des écrits apocryphes inventés. C'est ce jour-là que Jésus a fait son premier miracle. Ça serait étonnant que Marie vienne le voir pour lui dire « Fais un miracle ». Elle voulait qu'il règle la situation. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que Marie savait de qui il s'agissait. Elle savait que c'était le Christ, le Fils de Dieu. Parce que lorsqu'elle l'a mis au monde, c'est le Saint-Esprit qui l'avait conçu dans son ventre. Elle était encore vierge. C'est sûr qu'elle ne pouvait pas avoir oublié ça. Puis tous les événements entourant la naissance de Jésus aussi, les mages qui sont venus l'adorer, les bergers qui sont venus l'adorer, l'ange qui a annoncé la venue, le témoignage de Siméon aussi. Même le texte dit dans Luc que Marie a gardé toutes ces choses-là. Donc elle savait que Jésus, c'est le Christ, c'est le Sauveur promis. Mais qu'est-ce qu'elle s'attendait de lui qu'il allait faire? Probablement qu'elle comprenait la même chose que toutes les personnes dans le peuple d'Israël à l'époque, c'est que le Christ allait venir solutionner tous leurs problèmes, les problèmes de la nation, dont le premier, c'était que l'Empire romain les avait assujettis. Donc le Christ allait venir les débarrasser de l'Empire romain, qui leur causait plein d'injustices, mais il allait venir régler tous leurs problèmes, rétablir le royaume, make the nation great again. Donc, ils avaient cette compréhension-là du Christ qui allait faire ça. Donc, probablement que Marie, quand elle est venue le voir, c'est le temps maintenant, là. Tu as ton ministère public qui est commencé parce qu'il avait des disciples. Ça, c'était nouveau. Ça venait juste d'arriver. Jésus est avec des disciples. C'est clair. Il commence son ministère. Bien, c'est le temps maintenant. Règle la situation. Révèle qui tu es. C'est pour ça que Jésus lui répond, « Mon heure n'est pas encore arrivée. Ce n'est pas le temps. » Mon heure n'est pas encore venue. Mais quand il lui répond, ça peut sembler dur à nos oreilles. Il lui dit, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? » Pour essayer de comprendre ce texte-là, ça a été traduit de différentes façons, tout dépendant de la version que vous lisez, c'est peut-être traduit d'une autre manière. Mais littéralement, c'est ça qui est écrit. En grec, là, c'est « Femme, quoi entre toi et moi? » Premièrement, le mot « femme », ce n'est pas une insulte. De nos jours, si on appelle notre maman « femme », ça va être mal pris. Mais à l'époque, il semble dans la culture que ce n'était pas une mauvaise chose. C'est beaucoup moins intime que de dire « maman » ou « mère », mais c'est quand même respectueux. C'est quand même amical. La preuve, c'est que lorsque Jésus est sur la croix, qu'il est crucifié, dans cet évangile-là d'ailleurs, il s'adresse à Jean pour lui dire « Jean, voici ta mère ». Il s'adresse à Marie, il dit « Femme, voici ton fils ». Et c'est pour son bien. Il est en train de pourvoir aux soins de Marie alors que lui ne sera plus là. Il dit « Maintenant, c'est Jean qui va prendre soin de toi ». Donc, c'est un terme affectueux, « femme ». Mais ça dénote quand même une certaine distance. Il ne l'appelle pas « maman » ou il ne l'appelle plus « mère ». Donc, ça n'a plus ce rapport intime. Donc, Jésus prend une certaine distance et il ajoute « Qu'y a-t-il entre toi et moi? » C'est-à-dire dans cette affaire-là. Et cette expression-là, « Qu'y a-t-il entre toi et moi? » ça revient dans différents contextes. Et c'est jamais pour souligner quelque chose de positif. C'est pour souligner quelque chose de négatif. Ou c'est-à-dire, ça ne devrait pas. Tu ne devrais pas le voir, ce rapport-là, de la manière que tu le vois. Donc, ici, Jésus est en train, gentiment, de reprendre Marie. Il lui signifie que le rapport qu'il va entretenir dorénavant avec elle, ce n'est plus un rapport simplement mère-fille. Peut-être que Marie venait régulièrement lui donner des consignes, fais ça, lui donner son agenda. D'ailleurs, il a accepté de venir aux noces, peut-être sous l'influence de Marie. Mais là, il ne va plus suivre son agenda. Elle devra, maintenant qu'il a commencé son ministère, elle-même va devoir s'approcher de lui, non plus simplement comme son fils, mais comme le maître qu'il est, comme le Christ, comme le Sauveur. Donc, elle va devoir s'approcher de lui pour être sauvée par lui, comme tous les hommes et les femmes sur la terre. Et le Sauveur, le Christ, qui ne suit pas l'agenda de sa mère, mais l'agenda de son Père céleste. Là, dans le ministère de Jésus, pendant les 3 ans, 3 ans et demi, il va suivre les étapes que son Père céleste a préparées d'avance. Et ce n'est pas à Marie de venir lui dire « Maintenant, quoi faire? » Je ne sais pas si vous avez cette même interprétation, mais ça fait du sens. Donc, Marie ne se trouve pas ici à être la déesse que l'Église catholique en a fait. Ce n'est pas non plus un texte qui nous permettrait de dire que Marie devient une médiatrice entre nous et Jésus. On a vraiment élaboré toutes sortes de choses à propos de ce passage-là, mais Jésus fait simplement lui dire, « Ça ne te regarde plus maintenant, mes actions. Je fais l'œuvre de mon Père. » Donc, elle-même, comme vous et moi, elle avait besoin d'être sauvée. Heureusement, elle va être sauvée. Elle va finir par comprendre quel est l'objectif, pourquoi le Christ devait venir. Ce n'était pas pour solutionner tous les problèmes. Ben oui, mais pas de la façon dont on pensait. Et ici, Marie, c'est tout à son honneur, et elle accepte humblement. Elle accepte humblement son rapport va changer. Ça devait être difficile pour elle. C'est peut-être déjà le début de l'épée qui lui transperce le cœur. Un début. Quand Jésus lui explique « Mon heure n'est pas encore venue. » Dans l'Évangile de Jean, à chaque fois que cette expression-là est dite, là, que l'heure de Jésus n'est pas encore arrivée, ou que Jésus l'a dit lui-même, « Mon heure n'est pas encore arrivée », ça fait référence à l'heure de sa gloire, lorsque sa gloire va être manifestée, c'est-à-dire à sa mort et sa résurrection, et à sa remontée au ciel et son couronnement. Donc, ce n'était pas le temps maintenant que sa gloire éclate aux yeux de tous. Ce n'était pas le temps parce qu'ils auraient saisi l'occasion pour le couronner comme roi, mais un roi terrestre. Mais son royaume n'est pas sur cette terre, Jésus. Et au contraire, lorsque Jésus dit qu'enfin son heure est venue, il fait encore là référence vraiment à la mort et à sa résurrection. On lit dans Jean 17, « Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et il dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. » Et il est mort le lendemain. Mais ce jour-là, ce n'était pas le temps ni la manière dont Jésus devait être glorifié publiquement. Là, je ne sais pas s'il y a eu d'autres échanges, mais Marie, elle a compris que Jésus allait intervenir, mais pas de la manière dont elle le proposait. Elle l'a laissé maintenant prendre les rênes. Et elle dit au serviteur, « Ben, faites tout ce que lui va vous dire maintenant. » Donc, elle retourne même les serviteurs à Jésus. Écoutez ses instructions. Maintenant, voyons comment Jésus va intervenir. Le verset 6 à 10, on peut les relire. Il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures, c'est-à-dire, c'est pour indiquer le volume. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces jarres et les remplirent jusqu'en haut. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'organisateur du repas. Et lui emportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Donc, on voit l'intervention miraculeuse de Jésus. Il change littéralement l'eau en vin. Il y a des gens qui ont tenté d'expliquer par un phénomène naturel, tenter de donner une explication scientifique à cette transformation-là, qui peut avoir un résidu dans le fond de la jarre, ou je ne sais pas quoi. Mais c'est un miracle. de l'eau changée en vin. Et c'est pas n'importe quoi, là. Ça prouve que Jésus n'est ni plus ni moins que le Créateur, qu'il n'est pas limité par les lois de la physique. Le vin est un liquide très complexe, là. Tu ne peux pas juste prendre de l'eau pour ajouter quelques particules, là, puis ça devient du vin, là. Ça ne va pas se produire naturellement, là. C'est un liquide très complexe et Jésus, tout ce qu'il a eu besoin pour faire du vin, c'est de l'eau, H2O, qu'il a changé sans même devoir faire des rites, quoi que ce soit. Il a juste dit aux gens de remplir les jarres et de puiser. À quel moment ça s'est passé? Ça reste un mystère. On dirait que ça s'est fait tout seul, simplement par la volonté de Jésus, mais ça dépasse l'entendement à ce miracle. Donc ici, c'est soit qu'on y croit, soit qu'on n'y croit pas. Mais il n'y a pas d'explication scientifique. Il est le Créateur qui n'est pas limité par les lois de la physique. Il peut créer à partir de rien. Donc, pour procéder, il a dit simplement au serviteur, il n'a pas fait un grand brouhaha, il n'a pas appelé tous les invités, comme ferait un magicien pour avoir les applaudissements. Il fait ça seulement devant les serviteurs, discrètement, remplissez les jarres et allez porter cela. Et avant de servir aux invités, c'était convenable qu'ils allaient voir l'organisateur, lui faire goûter, obtenir la permission qu'il le serve aux invités. Donc, ils obéissent, ils puisent, ils vont voir l'organisateur, et l'organisateur note que le vin est bien meilleur que celui qu'ils ont servi jusque-là. Ça devait être un vin excellent, comme on n'a jamais bu. Un vin? Divin. Waouh, c'est beau ça. Pas juste un vin, c'est un divin. Et là, l'organisateur, bien, il va faire des reproches à l'époux. Il disait, c'est pas de bon sens, tu gardes le meilleur vin qui est une perle, là, alors que peut-être la moitié des gens sont enivrés puis ils sont même pas capables d'apprécier la qualité du vin. C'est le contraire, tu dois faire, tu sers la camelote à la fin, alors que personne ne peut s'en apercevoir. Mais là, on doit observer aussi un détail que Jean rapporte. Les jarres que Jésus a dit d'utiliser, des jarres en pierre, ça faisait partie des rituels des Juifs. Et c'est pas pour rien qu'ils étaient en pierre, parce que les jarres en argile, ça pouvait contenir des impuretés. Donc, les Juifs avaient l'habitude de maintenir de l'eau dans des jarres en pierre pour qu'elle reste pure, parce qu'ils devaient se laver les mains, se purifier avant chaque repas. Donc, c'était lié au rite de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament, et c'était lié aussi aux traditions que les Juifs avaient ajoutées par-dessus. Mais ces vases-là, ces jarres qui servent à la purification des Juifs, font vraiment référence, et c'est automatique pour les premiers lecteurs qui ont lu l'Évangile de Jean. OK, c'est des genres comme sacrés, là. C'est pour les rites religieux, pour s'assurer que chacun est pur, que ça soit justifié ou non dans la loi, mais c'était associé à la loi, au respect des ordonnances de Dieu. Donc, il y a un symbolisme qui est fort ici. L'eau dont Jésus demande de remplir les jarres, ça fait référence à l'Ancienne Alliance, à l'Ancien Testament. Et c'était une bonne chose. Mais ce que Jésus apporte de nouveau dans la Nouvelle Alliance est meilleur. Le vin est meilleur que l'eau. Désolé pour ceux qui ne boivent pas de vin, mais c'est meilleur. En tout cas, dans la Bible, c'est considéré comme un breuvage meilleur, qui nourrit, qui est le fruit d'une production de raisins abondante, qui est le symbolisme de la... symbolise la bénédiction de Dieu. Mais c'est ça que Jésus utilise pour le symbole de cette nouvelle alliance-là qu'il vient établir. Et même dans cette nouvelle alliance, l'eau devient inutile dans un sens. L'eau dans cette situation-là était inutile. Ça ne pouvait pas nourrir les... Ben, ça pouvait abreuver, étancher la soif des invités, mais c'est pas ça qu'ils voulaient. Ils n'avaient pas besoin de cela. Tout comme les rites de l'Ancienne Alliance et toutes les traditions que les hommes peuvent se créer pour plaire à Dieu deviennent inutiles dans le royaume de la Nouvelle Alliance. C'est un symbole qui est fort aussi, là. Jésus fait remplir les jarres à plein rebord, mais après ça, il enlève tout l'eau. Ça devient du vin. On n'a plus besoin de l'eau de l'Ancienne Alliance dans la Nouvelle Alliance. Dans la nouvelle création de Jésus, plus besoin de rites qu'on doit faire nous-mêmes pour, par exemple, obtenir le pardon de Dieu. obtenir apaiser sa colère, maintenir une relation avec lui. Tout nous est offert gratuitement. Ce n'est plus vrai qu'on a besoin de faire des œuvres maintenant pour être compté parmi les enfants de Dieu. On est compté parmi les enfants de Dieu parce qu'on croit simplement au sacrifice de Jésus et qu'il nous adopte dans sa famille. On devient ses enfants si on l'accepte. Jean conclut ensuite ce petit récit-là par une phrase au verset 11 qui explique la nature des miracles de Jésus. Tel fut à Cana, en Galilée, le commencement des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Donc, ils servent les miracles de Jésus à révéler sa gloire. Mais d'une certaine manière, il ne va pas, comme le diable a tenté de faire, s'afficher devant tous, faire un miracle simplement pour épater la galerie. C'est jamais pour cela. Tous les miracles de Jésus répondent à un besoin spécifique de l'homme, qui est très un besoin naturel. Là. Ici, un besoin de boire du vin et pour que les réjouissances continuent. Mais Jésus répond à ce besoin-là d'une manière glorieuse, divine, qui révèle un des éléments de la nouvelle alliance, de la nouvelle création en Christ. Donc, les miracles, ceux qui sont rapportés dans l'Évangile de Jean, sont d'abord et avant tout des signes. D'ailleurs, le mot en grec que Jean utilise ici pour parler des miracles de Jésus dans son Évangile, c'est un mot que si on traduisait littéralement, c'est le mot « signe ». Peut-être que dans certaines versions, c'est le mot « signe » qui est utilisé, le début des signes de Jésus. Donc, c'est plus précis. Ça fait partie de la famille des miracles que Jésus a fait, mais parmi les prodiges qu'il a fait, certains, ou on pourrait argumenter peut-être tous, mais ont une signification. C'est pour nous faire pointer les regards vers Dieu, pour révéler la gloire de Jésus. C'est jamais simplement pour faire du bien. C'est poussé par un élan de compassion, de miséricorde, mais c'est jamais simplement pour ça. C'est pour révéler sa gloire. Et si Jean dit, c'est le commencement des miracles que fait Jésus, il manifesta sa gloire. Une gloire qui est quand même subtile, parce que ce n'est pas tous qui vont repérer. Puisque c'est un signe, ce n'est pas tous qui le comprennent, ce signe-là. Jean va en rapporter 7 signes. Ou on pourrait dire 8 si on compte même la résurrection de Jésus. Mais dans les chapitres 2 à 12, je crois, Jésus fait à 7 reprises des miracles jusqu'à la résurrection de Lazare. Et à chaque fois, il révèle une nouveauté dans la nouvelle création qu'il vient apporter, qu'il vient créer. Encore là, le chiffre 7, ce n'est pas un hasard. C'est voulu par Jean, ça a une signification. Parce que Jean lui-même va témoigner que Jésus en a fait des centaines, que les livres de la terre ne pourraient pas contenir tout ce que Jésus a fait. Dans une seule soirée, Jésus en a fait beaucoup plus que 7. Mais ici, Jean en a choisi 7 qui révèlent la gloire de Jésus, une gloire qui est divine. Mais puisque ces miracles de Jésus sont des signes, ils n'ont pas été compris par tous. Donc Jésus s'est glorifié par ces miracles, mais de façon humble, discrète, parfois de plus public, plus approchait du jour de sa mort, mais au tout début, en tout cas, c'était vraiment très humble. Et ce jour-là, aux noces, les seuls qui ont su vraiment ce qui s'est passé, c'est les serviteurs qui étaient présents. Ils étaient peu nombreux. Et les disciples, parce que Jean nous le rapporte aussi. Peut-être que par la suite, les autres l'ont su. En tout cas, ce jour-là, l'organisateur ne savait pas d'où venait le nouveau vin. L'époux non plus. Les invités non plus. Mais pour ceux qui l'ont su, la gloire de Jésus a été révélée. Et le texte dit que ça a conduit les disciples finalement à croire en lui. À croire en lui d'une façon de plus en plus précise, à connaître Jésus de plus en plus. Encore aujourd'hui, les gens lisent les évangiles, lisent par exemple ce texte-là, ce passage-là, comme on l'a lu aujourd'hui, et peuvent être étonnés, émerveillés de voir la compassion de Jésus, de voir qu'il peut solutionner des problèmes. Ici, c'est beau de voir qu'il a eu compassion de l'époux qui aurait souffert de la honte parce qu'il manquait de vin. Non seulement il réglait le problème de l'époux, de l'organisateur, de sa mère qui est venue le voir, des invités. C'est bon. Il y a des gens qui vont se limiter à cela. Ils voient les bienfaits, ils peuvent le constater. Et même ceux qui ont vu que l'autre a changé en vin, parmi les serviteurs, le texte ne dit pas qu'ils ont cru. Peut-être que certains sont devenus ses disciples, mais peut-être pas. Ils ont été étonnés de voir que l'autre est devenu du vin. Mais est-ce qu'ils ont cru en lui, en Jésus? Donc, ce n'est pas tous ceux qui vont lire les évangiles, qui vont voir les miracles de Jésus, qui vont comprendre, qui vont apprécier. Ils ne vont pas comprendre qu'il est plus qu'un bienfaiteur, il est le Sauveur. Et le plus grand bienfait qu'il nous accorde, c'est la vie éternelle. C'est le salut éternel. Il est le Sauveur dont tous ont besoin. Celui qui révèle Dieu lui-même, l'image de Dieu. 2 Corinthiens 4 dit, « Si notre évangile est encore voilé, et comme un voile encore sur l'évangile, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules, ceux qui refusent de croire, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées, afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile du Christ qui est l'image de Dieu. » Encore même l'évangile que l'on présente quand on parle de Jésus, ça demeure voilé, ça demeure un message qui est très humble. Notre Sauveur, c'est celui qui a été rejeté par son peuple et qui a été crucifié. Et ceux qui le découvrent pour vrai, le voile est enlevé, puis là, ils voient à quel point c'est glorieux. Mais à la base, pour tous et chacun dans la société, le message de Jésus, l'histoire de Jésus, elle n'est pas glorieuse. Il faut que le voile soit enlevé pour qu'ils comprennent toute la profondeur là, du geste de Jésus. On assiste rarement à des miracles comme de l'eau changée en vin, mais dans l'Église, chaque personne qui se convertit à Christ sincèrement, réellement, est transformée. Selon la promesse de Dieu, par le Saint-Esprit, la personne change. Et même les gens à l'extérieur, même ceux qui ne sont pas croyants, vont constater cela. Certains vont être étonnés de voir à quel point des gens vont changer. Ils peuvent comprendre, « Ah ouais, c'est depuis qu'il est avec l'Église chrétienne, là-bas, là. » Mais est-ce qu'ils vont vraiment reconnaître que c'est l'œuvre du Sauveur, de Jésus, et qu'eux aussi ont besoin de cette œuvre-là? Là, il y a un pas à franchir que tous ne franchissent pas. Ils ne peuvent pas voir toute la gloire de ce miracle dans la vie de chacun. Ils ne peuvent pas l'apprécier ni le comprendre jusqu'au jour où ils croient en Jésus. Là, ça s'ouvre devant leurs yeux. Donc, en conclusion, ne commettons pas l'erreur de voir Jésus simplement comme celui qui règle des problèmes. C'est un bon test, ça. Quand on parle à quelqu'un et on se demande s'il est sauvé, s'il est croyant pour vrai, est-ce qu'il a vraiment donné sa vie à Jésus, c'est de voir comment il considère Jésus. Si c'est juste quelqu'un qui vient régler ses problèmes dans la vie de tous les jours, eh bien, c'est quelque chose qu'il n'a jamais compris ou il l'a oublié. Il faut nous le rappeler que Jésus n'est pas simplement le solutionneur de nos problèmes sur la terre. Celui qui va nous guérir quand on est malade, celui qui va nous accorder un emploi quand on le perd, celui qui va nous accorder un logement quand on a besoin de déménager, celui qui va nous fournir un conjoint ou une conjointe, qui va solutionner, qui va combler nos besoins, c'est plus que ça. Jésus n'est pas là simplement pour arranger notre vie dans cette création aussi, même s'il nous comble de bénédictions, mais il est en train de faire une nouvelle création, il est en train de nous transformer, il nous recrée pour cette nouvelle création. Dans 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Même si on les considère vraiment très importantes, elles sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. » Mais celui qui se dit chrétien, mais qui n'est jamais content, qui se plaint à tous les jours, à chaque fois qu'il y a une difficulté, il montre que ses yeux sont fixés sur cette terre ici-bas, sur cette création, la première création, que ses deux pieds sont encore sur terre et qu'il a oublié qu'il appartient à la nouvelle terre. Quand nos yeux sont fixés sur la nouvelle terre, quand on est nourri par l'espérance là, de cette joie-là, du festin des noces de l'agneau qui nous attend, de la joie qui sera infinie, bien, nos problèmes sur cette terre, sur cette ancienne création, paraissent moins graves, ils pâlissent. Et on peut être dans la joie. Et on passe du mécontentement et de la plainte, des murmures, au contentement. Et de pouvoir louer le Seigneur, même quand il nous enlève des choses. L'Éternel a donné, l'Éternel a enlevé, que le nom de l'Éternel soit loué. Mais celui qui comprend, qui se souvient, mais il expérimente déjà la joie du royaume de la nouvelle alliance. Et on peut déjà commencer à fêter sur cette terre même. Quand on s'assemble pour louer le Seigneur, c'est une occasion de joie, de fêter ensemble, entre frères et sœurs. Donc, pendant cette vie-là, avec les frères qui ont la même espérance que nous, c'est normal que les chrétiens veulent s'assembler avec ceux qui possèdent cette même joie, cette nouvelle vie. Donc, réjouissons-nous parce que Jésus nous a tout donné déjà. Même si on ne voit pas encore de nos propres yeux, mais par la foi, soyons sûrs qu'il ne manque de rien. On a bien plus même que tout ce qu'on pourrait penser. Amen.